Qui a promis de lutter contre la violence et l'immigration clandestine, juxtaposée par ses vœux pour 2006? Le Pen? Le petit Nicolas? J'attends. Chirac? Bravo à l'auditeur de Châteauneuf, il y en a au moins un qui suit. Pour avoir l'air d'exister, notre président sert la soupe aux électeurs de Sarko, qui sert la soupe aux électeurs de Le Pen. Dépêchez-vous, ça va refroidir. C'était un graffiti de Rico dans la Drôme provençale. Et tous mes voeux de moins d'emmerdes possible à tous les là-bas si j'y suis. Ciao.
Bonjour, Daniel Mermet, bonne année à toute l'équipe. Voilà, nous on démarre colère là en ce début d'année. On est dans le 20e arrondissement, rue Olivier Métra, et nous sommes des parents d'élèves de l'école de la rue Olivier Métra. Et une fois de plus, une maman est menacée d'expulsion. Donc je vais vite raconter l'histoire. Cette maman est maman de deux enfants sur notre groupe scolaire. Elle vit en France depuis 14 ans, son mari a des papiers, ses enfants sont nés ici. Et elle n'arrive absolument pas à obtenir son titre de séjour. 4 fois refusé. La préfet de police a décidé de l'expulser au Maroc, son pays d'origine. Le 23 décembre, beau cadeau de Noël, n'est-ce pas? Heureusement, il y a eu un recours fait devant le tribunal administratif grâce à une première mobilisation des voisins de l'immeuble. L'audience a lieu le 6 janvier à 12h30 et nous, on voudrait appeler tous les parents d'élèves, les parents de la FCPE, les parents des écoles de Paris, les gens qui ont envie de manifester, de dire que ça suffit de ce comportement. Nous, on en est à 2 familles déjà de l'école Olivier Métra, dont le papa est expulsé pour la première, la maman va donc être expulsée pour la deuxième. Et donc, on essaie de se mobiliser, on veut manifester notre indignation et on donne rendez-vous au tribunal. Alors, je dis que le rendez-vous, c'est vendredi 6 janvier, 12h15 au tribunal administratif de Paris, métro Cité, et la rue, c'est 7 rue de Jouy. Voilà, et alors vous pouvez demander tous les renseignements, nous contacter à la FCPE Paris 20e ou alors l'association des parents d'élèves ou réseau éducation sans frontières. Et puis j'aimerais bien savoir comment on pourrait un petit peu parler des sans-papiers, voilà, avec Daniel Mermet dans votre émission. On espère que vous nous contacterez peut-être et puis qu'on pourra en parler à l'antenne. À bientôt, au revoir.
À tous les amis rebelles de la Bastille, j'y suis, nous souhaitons une année 2006 où nous ne serons plus seulement dans la résistance, mais dans la riposte. Petit rappel aux amis du repère de Limoges, prochain rendez-vous mercredi 4 janvier à partir de 18h, toujours au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Montjovie. On y partagera une galette et on rencontrera l'équipe de Creux Citron, petit journal fort sympathique qui s'adresse à tous ceux et celles qui luttent contre la falsification de l'information et la diffusion généralisée de l'idéologie libérale. Bis à tous.
Et ben voilà, des échos, des messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37. Nous aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu en arrière, on va revenir à Noël, Noël, ah Noël, l'arbre de Noël, les cadeaux de Noël. Et on va revenir sur cette fête merveilleuse avec les bambins émerveillés, mais pas n'importe où. On va aller à Guise. Vous savez où c'est Guise? Ah, Guise, ça vous dit rien hein, à la plupart d'entre vous, mais pas aux habitants de Guise, évidemment. Et pas aux habitants d'un endroit très, très étonnant, qui reste toujours étonnant après plus d'un siècle et demi d'existence. C'est le palais social de Guise. Ça vous dit quelque chose, Gaudin? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Gaudin? Ah, les anciens, ça leur dit quelque chose. Les petits jeunes, je suis pas sûr que le mot Gaudin leur évoque quelque chose. Eh ben, Gaudin, c'était des poêles qui chauffaient la maison. C'était des cuisinières aussi. C'est toujours et à nouveau des poêles et des cuisinières. Quel rapport entre Noël, Guise, le palais social et des cuisinières? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce reportage de François Ruffin dans ce qui fut si longtemps le palais social de Gaudin. Gaudin, c'était pas seulement un poêle, c'était aussi un homme, c'était aussi un entrepreneur, c'était aussi un utopiste, dit-on, sauf que son utopie a été réalisée, il l'a réalisée, et ça a été au 19e siècle, siècle, mais jusqu'en 1968, une expérience à la fois sociale, économique et politique tout à fait étonnante et d'autant plus étonnante, vous allez le voir, lors de ce Noël dernier, c'est que les actuels salariés de cette entreprise qui s'appelle toujours Godin, mais qui n'a plus le sens que Godin lui avait donné, eh bien, les salariés de cette entreprise pour ce Noël étaient en grève. Donc, vous avez déjà compris, contraste entre cette journée, ce Noël de grève, et puis ce passé essentiellement social, qui a été une longue réflexion à travers le 19e siècle et dans une grande partie du 20e siècle entre l'économique et le social. Et tout ça autour d'un sapin de Noël et tout ça dans Là-bas si j'y suis jusqu'à 18h.
Pour cadeau, vous n'avez pas des faux Godin, des choses comme ça par l'autre entreprise?
Oh non, absolument pas là. On n'a rien du tout pour le...
Mais vous ne mettez pas un petit produit d'entreprise?
Si, si. Absolument pas là. Non, absolument pas.
Parce qu'il pourrait quand même. Moi, mon père, il travaille chez Bonduel. On a des boîtes Bonduel tous les ans.
Ah ouais? Mais nous, non, rien du tout.
Carafe, une bouteille, c'est carafe. Ok, très bien. Ça coûte 1300 euros pour une fête, pour une entreprise dont vous m'avez cité les bénéfices. Est-ce que c'est un gros trou dans la paillasse de billets? Non, je ne pense pas que ce soit trop cher. C'est pas dans son cœur. Dans son cœur, il n'y a rien. C'est vide.
C'est un client, en définitive, du Godin, qui lui nous a donné 200 euros.
Mais il dit quoi le client?
Je vous lis c'est de la part de monsieur de Christine et Jean-Luc Lefebvre et l'équipe Cazoc souhaite à tous les salariés de l'entreprise Godin un joyeux Noël en famille, que notre participation à votre arbre de Noël soit pour vous une source de réconfort et vous aide à surmonter vos difficultés. Continuez à nous fabriquer des poêles avec toujours autant de conscience professionnelle que vous exercez depuis longtemps et faites de nous des distributeurs heureux de vendre des produits de qualité fabriqués par des femmes et des hommes de notre
région
amicalement, Jean-Luc Lefebvre. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ah. De voir qu'il y a des gens qui pensent encore à nous quand même.
Donc là, on se trouve avec Marielle Aguise. Marielle qui travaille dans l'entreprise Godin. Elle vient de sortir de l'usine. Là, on va passer entre deux plots. Ça représente quoi?
Voilà. C'était les entrées du Familistère. Parce qu'en fait, Godin, c'était un petit peu une ville dans une ville. C'était carrément une vie différente. Donc là, on passe... C'était tout ce qui était nurserie, piscine, s'il y avait une piscine à l'époque. Pendant que les hommes travaillaient, les dames s'occupaient des enfants, de la lessive, il y avait l'eau chaude et tout. Puis donc là, le Familistère.
Tu désignes un bâtiment qui est un bâtiment de briques rouges, là.
Voilà, c'était le palais social, parce qu'il a été créé un petit peu sur le... Ça a été repris sur le château de Versailles, en fait, en plus petit, bien sûr. Parce que, à l'époque, les personnes n'avaient pas l'eau. Ici, ils avaient donc le chauffage, bien évidemment. Ils avaient douche, ils avaient toilette, ils avaient tout ça, là, au Familistère.
Voilà. Donc là, vous habitez dans l'aile gauche du Familistère Godin.
Voilà,
ouais. D'accord.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin. Joyeux Noël, Monsieur Godin.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc là, on est dans la cour intérieure du Famisphère. Donc c'est très étrange parce que c'est comme une cour de d'immeuble, sauf que au-dessus, il y a un toit, quoi.
C'était une verrière. Et il vivait là, hein, Godin. Ah, il vivait avec ses ouvriers. Il avait un appartement dans le Famisphère, hein. Avec tout ce qu'il a amené, Godin, il a essayé de créer un système de sécurité sociale. Il a par l'architecture du théâtre, de l'école, du Famisphère, mais aussi pour le social. C'est un gars. Il était grandiose. Il a créé la fête du travail. Ça n'existait pas. Lui, il avait dit, bah tiens, telle journée, il faut faire une fête du travail pour récompenser les ouvriers parce qu'ils ont travaillé toute l'année. Tous les trucs comme ça, les systèmes de sécurité sociale, les trucs pour les dames qui perdaient leur mari, qui n'étaient pas fichues dehors, qui avaient quand même un petit quelque chose qui rentrait pour survivre. C'est un minimum pour lui. Il fallait que les gens sachent lire et écrire. On voyait ça partout. Vous voyez pas ça nulle part, quoi. Je veux dire, il était le seul à dire on va créer une école et tous les enfants vont y passer. Tous les enfants vont savoir lire et écrire. C'était grandiose.
J'en ai encore, t'en auras un. Eh ben tiens, eh ben voilà. Ah, tu fais un bisou ?
Alors voilà l'affaire. Vous avez commencé à piger d'où l'endroit où on se trouve, donc dans ce palais social à Guise. En effet, ça s'inspirait bel et bien du château de Versailles, cette étonnante construction qui est toujours là, qui a été restaurée, qui est aujourd'hui un monument historique, qui témoigne de cette expérience tout à fait singulière de cet entrepreneur qui était un homme simple, fils d'un serrurier de la région, du Thiérache. Guise est à côté de Saint-Quentin, c'est dans l'Aisne, et qui, après avoir fait son tour de France pour apprendre son métier, la serrurerie, était revenu à Guise avec des idées du temps, des idées de l'époque, des idées socialistes. Tout le 19e siècle a été comme ça ponctué et hanté par ceux que par la suite, avec un peu de mépris et un peu de paresse, on a appelé les socialistes de l'utopie. Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait d'un certain nombre de penseurs, de philosophes, d'hommes politiques engagés à divers degrés dans leur temps, Saint-Simon, Proudhon, Louis Blanc, Cabet, Fourier, Robert Owen, par exemple, le Britannique, et Karl Marx, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça, qui, face à cette révolution industrielle, ont essayé de penser leur époque et la société et le monde tout entier différemment. Penser le monde différemment, ben ça rappelle un peu ceux qui aujourd'hui disent qu'un autre monde est possible. Ils le disaient aussi au 19e siècle, un autre monde est possible. Évidemment, c'est vrai que pour la plupart, tout ça est resté dans l'utopie, dans des essais, dans des expériences diverses et variées. La plupart sont restées des expériences de papier. D'autres se sont réalisées ou ont nourri des grandes réalisations, dont certaines ont été des grandes catastrophes. Mais dans le cas de Godin, eh ben ça a été, on peut dire, une réussite. Libre à chacun d'en juger, en tous les cas indéniablement une expérience sans égale et une expérience très riche, toujours aujourd'hui, d'enseignement et toujours riche, au moins pour cette phrase écrite par Godin lui-même. Il a beaucoup écrit Godin. Il disait qu'il était contre le système libéral fondé sur l'égoïsme où le social est étouffé par l'économique. Il écrit ça en 1856. Donc, il va se lancer dans cette entreprise de fabrication de réchauds, de cuisinières et de poêles de chauffage, mais en fonte. Alors, c'est une technique nouvelle à l'époque, et cette entreprise est florissante. Rapidement, il a, en 1846, il a 32 salariés, 32 ouvriers. Il en aura 1500 en 1876. Donc c'est florissant. Par la suite, il inventera ou il appliquera le système de la fonte émaillée. Donc voilà, une entreprise florissante, mais il se limite pas à une entreprise florissante, pas du tout. Il essaye, dans son entreprise, d'abord de construire ce palais, et ensuite, il va être un innovateur dans le domaine social. C'est-à-dire qu'entre l'économique et le social, il pense qu'il y a un lien, bien évidemment, mais qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social et pas de développement social sans développement économique. Et chemin faisant, Jean-Baptiste Gaudin va, comme le disait cette personne qu'on vient de rencontrer, va inventer un tas de choses. Un tas de choses seront inventées au cours de cette expérience, la fête du travail, par exemple, et cette construction extraordinaire qui est toujours là, qu'on peut visiter avec théâtre, école, piscine, bibliothèque, lavoir, crèche, magasin d'approvisionnement, etc. Et ce, au milieu du 19e siècle. Donc une aventure, une expérience sociale, économique, et aussi dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de la protection sociale, accident du travail, maladie, retraite, etc. Gaudin se montrera un homme d'avant-garde, ou du moins qui pourra proposer des expériences très très riches d'avenir avec le système qu'on appellera par la suite l'autogestion, mais en tous les cas avec des systèmes mutualistes et coopératifs qui seront gérés par les salariés eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on va se balader dans ce palais social, mais dans une circonstance bien particulière, parce que les actuels salariés de Gaudin, la marque existe toujours, mais je l'ai dit, c'est pas du tout le même esprit, on va voir au niveau entreprise, ils sont 350 je crois aujourd'hui, c'est pas du tout le même esprit, puisque l'actuelle direction a refusé de recevoir les salariés qui sont en grève, si bien que le jour de Noël, c'est un jour de Noël de grève. C'est un jour de Noël de lutte dans ce palais social.
C'est con à dire, mais pendant la grève, où on a eu des salaires un peu plus bas que d'habitude, on peut acheter des bonbons, ça manque. Oh, c'est horrible.
Non, parle pas trop fort parce qu'il y a ton compagnon qui est endormi. Ouais.
J'en ai parce que ma mère, elle sait que je ne bois que ça. Alors, elle m'a fait une provision de thé. Pas que je m'en manque. Bon, on a été chercher des colis à la Croix-Rouge, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Donc là, on y est allé parce que vraiment, c'était la grève, parce que, il faut payer le loyer, l'électricité, tout ce qui s'ensuit. Donc... Surtout en travaillant, quoi. On se dit, attends, on travaille et puis on atterrit là-bas.
C'est vrai que l'ouvrier qui va chercher pour manger son colis à la Croix-Rouge après le boulot, c'était pas tout à fait l'idéal de non. Jean-Baptiste Gaudin.
Non, 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 non. C'est grandiose, je trouve, pour 2005, d'en arriver là. On est en train de faire un grand bond en arrière.
Hop là.
Un grand bond arrière, dit Marielle. Ce sera l'expression la plus claire pour dire ce qui se passe ce jour-là, cet arbre de Noël qu'on prépare, en même temps qu'on se trouve dans ce palais social construit donc au XIXe siècle, qui depuis des années, mais tout au cours de sa réalisation, a été un sujet de réflexion, d'espoir, non seulement pour ceux qui y vivaient, qui ont participé à cette expérience de génération en génération. On va rencontrer un familistérien, parce que ça s'appelait le familistère, c'est un mot que inventé par Gaudin, inspiré du phalanstère de Fourier. On parlera peut-être un peu de Fourier, l'un de ces socialistes de l'utopie. Et évidemment, c'est le grand bond en arrière, effectivement. Et ce qui dira aussi beaucoup, l'expression qui vient naturellement à l'esprit un jour comme celui-là, c'est « Gaudin se retourne dans sa tombe ». Alors là, c'est le matin tôt. On est avec Vincent Lambert, l'un des salariés, à l'orée de cette journée particulière.
Donc là, on se trouve chez monsieur Vincent Lambert. Et ça fait combien de temps alors que vous travaillez chez Gaudin ?
J'ai 11 ans d'ancienneté, plus 7 ans d'intérimaire. Contrat la semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, je renvoyais mon contrat à la boîte d'intérim.
On va prendre le café.
Ouais.
Donc, il y a eu une grève chez Gaudin au cours du mois de novembre. Vous en avez été l'un des instigateurs. Qu'est-ce que vous réclamiez alors au cours de cette grève ?
200 euros. 200 euros rapportés à 800. En fait, ça nous fait arriver à 1000 euros, 1100 euros pour certains. C'est quand même pas la mer à boire. Et puis, c'est ce qui me semble un minimum pour vivre. Les salariés Gaudin, pour la plupart, sont obligés d'aller soit à la Croix-Rouge, soit dans des organismes caritatifs pour boucler le monde. C'est quand même impensable, insensé. Allez. On est parti.
Parmi. Donc là, on sort de la maison. Il fait encore nuit. Au final, les négociations avec le patron, ça a donné quoi ?
Ben, il n'y a pas eu de négociation.
C'est-à-dire ?
Ben, il n'a jamais voulu venir. Il n'a jamais voulu discuter avec nous, même si la préfecture avait nommé un médiateur. Il faut savoir quand même que la sous-préfecture, la préfecture, le ministère de l'Emploi ont essayé d'intervenir à leur niveau, hein, bien sûr. Personne n'y est arrivé.
On s'est garé à l'intérieur du Familistère. On passe devant la statue de
Jean-Baptiste André Gaudin qui doit en ce moment se retourner souvent dans sa tombe.
Pourquoi ?
Bah écoutez, de passer de sa philosophie à l'extrême capitalisme, je pense qu'il doit mal digérer la chose.
Donc là, on va traverser la route qui mène à l'usine. Alors là, vous allez ouvrir le local du comité d'entreprise. Il y a une affiche avec marqué quoi ? Et le travail ?
Voilà. Le rôle de la coopération consiste à faire profiter les classes ouvrières des bénéfices sortis du travail. Parole de Jean-Baptiste André Gaudin dans Devoir en 1881. Ça serait bien de remettre ça d'actualité.
Le rôle de la coopération consiste à faire profiter les classes ouvrières des bénéfices sortis du travail. C'est-à-dire qu'il dit que finalement, sur les 4,3 millions d'euros de bénéfices de Gaudin cette année, il serait bien que les ouvriers en profitent d'une part, c'est ça ?
Ben exactement, exactement. Ben.
Quelle heure tu peux descendre en bas ?
Ben, il faudrait être là... Normalement, on avait rendez-vous à 8h, il est 8h15.
On va descendre.
Vous allez descendre où ?
La salle, pour faire la préparation de la fête de Noël pour ce soir. Il y a des canettes, le sol, des jouets.
Tous les jouets, vous arrivez à faire
9h. Il faut savoir que c'est quand même grâce à la Ligue des droits de l'homme et de l'enfance qu'ils ont pu...
Ça peut se faire cette année.
Oui, qu'ils ont pu faire le spectacle.
Sinon, cette année, il
n'y avait pas... organisé par eux.
Sinon ?
Bah, sinon, le patron ne voulait pas payer le spectacle de Noël. Là.
Mais
habituellement, il y a une fête organisée tous les ans, enfin l'année comme celle-ci, et payée par le patron. Mais cette année, le patron, il a dit non, rien du tout.
Pourquoi il n'a pas assez d'argent ?
Il a du pognon, il en a trop même du pognon. il est radin et c'est tout.
Et vous avez fait grève aussi ?
Ah oui, il a fait 13 jours de grève avec. Ce soir, c'est la paye, puis la grosse tête.
Enfin, la moitié du salaire aussi.
Ouais, on perd 450 euros sur le salaire, là. Sur un salaire de 966 euros, il restera pas énorme.
Joyeux Noël.
Ouais, joyeux Noël, on peut le dire, là.
Installez le promis, le banderole. Joyeuse fête.
Ah, ouais, le promis.
On peut encore mis, hein. Je sais pas s'ils vont le mettre. C'est qu'on en veut pas. Pas cette année.
Le pire, c'est quand Desmoulins va venir, il va dire, meilleur vœu. Alors, si jamais il me dit ça, foutez pas de ma gueule, là. C'est clair qu'il va y avoir drôle, là.
Et qu'est-ce que vous avez gagné après ces journées de grève ?
Ben, on n'a absolument rien gagné pour l'instant. Ben, déjà, même discuter avec le patron, on ne peut pas, c'est impossible.
Je vais vous accompagner à la salle des fêtes, si ça vous dérange
oui,
pas.
Oui, mais moi, je vais chercher mon bon, parce que j'ai pas de bon de délégation.
Ah, oh, dépêche-toi, ouais.
Hein ? Okay, oui. Ouais.
Ah oui, grand bon en arrière. Gaudin, c'était travail, solidarité, équité, liberté, devoir. C'était l'épanouissement individuel et l'émancipation collective tout à la fois. Une expérience effectivement considérable et convaincante. Tous les témoignages, les recherches qu'on a pu faire sur ce qui s'est passé dans cette entreprise concourent effectivement à reconnaître que des progrès considérables ont été faits dans la relation entre le travail et le capital, entre le patronat, entre la direction et les salariés. Ça a été une expérience tout à fait passionnante et tout à fait convaincante, encore une fois. Et là, on est effectivement dans la régression la plus totale avec ce patron qui dirige une entreprise tout à fait prospère et qui refuse d'augmenter ses salariés et de débloquer les 1500 euros pour cet arbre de Noël. Alors, visite dans ce palais social. Je rappelle qu'on peut le visiter aujourd'hui. Vous pouvez aller vous balader là-bas, visiter. Il y a des quantités de visites qui sont organisées chaque année. C'est évidemment un endroit tout à fait passionnant. Et nous, on va se balader avec Guy Delabre, qui est l'un des historiens qui a travaillé sur ce sujet et qui est l'auteur d'un remarquable Gaudin et le familistère de Guise. Alors, je sais pas si je prononce bien, hein, si c'est Guise, Guise ou Guise. Je crois bien que c'est Guise.
Vous observez au passage que les vitres sont biseautées. Pour un logement ouvrier, c'est quand même pas mal. Vous voulez pas?
On retrouve là
cette immense verrière avec les balcons qui courent tout autour de la cour intérieure. Au niveau de chaque étage, des coursives.
Ça, c'était prévu donc pour les ouvriers de l'entreprise?
Non, c'était prévu pour tous les personnels, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient cadres. L'idée, c'est bien de faire disparaître les classes sociales, les confondre notamment dans l'habitation unitaire, et faire que mixité sociale, donc, se côtoient et vivent ensemble l'ensemble des catégories sociales. Godin habite le Familistère avec son personnel.
Ah, il habitait ici?
Absolument, nous verrons tout à l'heure son appartement, certes grand, un duplex de 9 pièces, mais il est quand même au milieu des appartements des autres salariés de l'entreprise.
Il y avait une idéologie, hein, derrière cette architecture, il y a une idéologie qui est anti-individualiste aussi.
Ah mais absolument, c'est Godin a le parti pris de l'habitation unitaire, c'est-à-dire que c'est le contre-pied exact de la cité ouvrière telle que le patronat, certains patrons éclairés d'ailleurs, l'imaginent, de la petite maisonnette rangée, alignée tout au long d'une rue, le Coron par exemple. Et donc Godin est totalement hostile à l'habitation individuelle. Si l'on veut promouvoir la sociabilité, l'entraide, la solidarité, la communauté, si on veut effacer les différences entre les catégories sociales, eh bien c'est par l'habitation unitaire, c'est par cette révolution architecturale qu'on y parviendra. Et en la matière, il est typiquement fourriériste. Fourier avait rêvé de ce phalanstère qui allait réaliser donc la société harmonique. Eh bien, c'est de cela dont rêve Godin, mais il ne fait pas qu'en rêver puisqu'il l'a construit avec le succès que l'on connaît.
Donc c'était un penseur à la fois qui voulait penser la société globalement. Enfin, il avait des idées pour réguler les rapports entre le capital et le travail et qui, en même temps, pensait très concrètement comment bâtir pour que fonctionne son utopie.
Absolument, il se contente pas d'être un penseur, un philosophe, c'est un pragmatique qui a effectivement le souci jusqu'au moindre détail de la façon dont doit fonctionner cet ensemble. Il s'agit pour Godin de donner à l'ouvrier les équivalents de la richesse. Ces équivalents de la richesse, eh bien, c'est l'accès au théâtre, ce sont les écoles, ce sont les sociétés de secours mutuels qui assurent la gratuité des soins, c'est l'accès à la pharmacie, ce sont ces magasins coopératifs auprès desquels on
peut
s'approvisionner.
Parce qu'il y a des soins gratuits
Absolument. Godin invente et décrit d'ailleurs d'une manière extrêmement précise la sécurité sociale telle que elle apparaîtra en France en 1945, puisqu'il met en place un système de caisses.
Là, on sort
un système de caisses mutuelles. Ces caisses, donc, qui assurent, contre la maladie, gratuité des soins, de la pharmacie, et puis qui viennent en aide en cas de décès, en cas d'invalidité, à ceux qui en ont le plus besoin, bien entendu.
Si j'en ai encore, t'en auras un. Voilà.
Ah, c'est ça. Et il y avait la musique aussi. Dans le palais social de Guise, chez Godin, on fabriquait des godins, on fabriquait des poêles, on fabriquait des cuisinières, et il y avait effectivement tout ça. Il y avait tout ce que Monsieur Delabre nous décrit, effectivement, la bibliothèque, le théâtre, la piscine. Il fallait que les ouvriers et leurs enfants apprennent à nager. Et il y avait une crèche. Il a été un des précurseurs, lui et sa femme, parce que sa seconde épouse, Marie Moret, a joué un rôle très important dans ce monument de l'histoire sociale qu'est l'aventure, l'histoire de Godin. Marie Moret a joué un rôle très important en matière d'éducation. Elle était une féministe. L'école conçue par Godin était mixte déjà. Les gamins et gamines étaient ensemble. Il y a comme ça toute une série d'innovations innovations. Et bon, ça s'appelait le Familistère. Quand j'étais gamin, ceux de ma génération se souviennent de ces magasins qui s'appelaient les Familistères, qui étaient issus de cette histoire, tout comme les magasins des coopérateurs, qui renvoyaient effectivement à cette histoire sociale de la fin du 19e siècle. Alors, je disais tout à l'heure, il y a des descendants, il y a des gens qui sont la quatrième ou cinquième génération de Familistériens, et c'est le cas de Monsieur Pat, il s'appelle comme ça, Monsieur Pat, que François Ruffin a rencontré.
Monsieur Pat ?
Oui, lui-même.
Donc là, on se trouve avec Monsieur Pat au troisième étage du Familistère Cambrai. C'est ici que vous vivez depuis longtemps ?
Je suis au Familistère depuis ma naissance, c'est-à-dire depuis 1930. Donc j'ai toujours vécu au Familistère. Et mes parents aussi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, quatrième génération, quoi, de Familistériens. Moi, j'ai vécu peut-être sur la fin l'œuvre de Monsieur Gaudin, quoi.
C'est-à-dire que votre arrière-grand-père vivait déjà dans Familistère ?
Ah oui, oui. Bon, ben, mon grand-père est arrivé pour travailler à l'usine à la demande de Monsieur Gaudin. Il demandait des ouvriers, quoi. Et après, il a même fini au sein de l'entreprise, de l'association, comme conseiller de surveillance. Parmi les trois ouvriers qui étaient élus chaque année, il a été nommé commissaire rapporteur, ou rapporteur, si vous voulez. Bonjour, Georges. Alors, et il habitait là où il voulait tirer à moitié, là.
Juste là,
au 456.
Donc vous habitez au 453. Donc en trois générations, il y a un déplacement d'à peu près d'une dizaine de mètres.
Ah ben moi j'ai habité au 465.
Donc là vous montrez de l'autre côté de...
Le balcon là.
C'est un genre de grand ensemble ici.
Ah, oui. C'est la famille, c'était la famille. Même les directeurs, les ingénieurs habitaient le Familistère. Et l'administrateur gérant qui était Monsieur Rambeau, que j'ai connu, ensuite Monsieur Anstel, il y avait des ouvriers qui habitaient à côté de lui. Il n'y avait pas de différence, si vous voulez.
Donc c'était la mixité sociale, en un sens.
Voilà, exactement. Même l'administrateur gérant avait un jardin à côté de mon père, de celui de mon père. Et quand ils se retrouvaient en période au printemps, ils discutaient, comme ils étaient camarades d'enfance, et là, ils se tutoyaient, René, Fernand... Maintenant, tout a disparu, forcément. Mais on vivait en famille, on se connaissait de la naissance jusqu'à la fin, quoi.
Mais généralement, quand on dit grand ensemble, on pense banlieue et on pense quelque chose de négatif. Ici, je vous dis grand ensemble, vous pensez quelque chose de positif.
De positif. Les jours d'été, les longues soirées d'été, les gens sortaient leurs chaises devant leur porte, puis ils discutaient entre voisins. S'il y a un voisin qui faisait des crêpes ou autre chose, il buvait le coup de cidre. Et puis, de temps en temps, il y a un gars qui sortait sa clarinette ou sa trompette, il jouait un air. Et les gens... Moi, j'ai vu, avant la dernière guerre mondiale, j'ai vu des gens qui dansaient la polka. Pour moi, c'était des mamies à l'époque, avec encore des grandes robes jusqu'où je suis. Ils dansaient la polka sur les balcons un soir d'été. C'était quelque chose de vivant. Est arrivé après l'histoire des volets roulantes. À partir d'une certaine heure, les gens ferment leurs volets, pouf, il n'y a plus personne, on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui vit. Tandis que moi j'ai connu où les fenêtres étaient éclairées, donc selon la couleur des doubles rideaux, vert, rouge ou jaune, on sentait qu'il y a quelqu'un qui vivait, il y avait une ambiance, il y avait une chaleur qui se dégageait, tandis que maintenant, vous voyez, les volets sont fermés, c'est fini, quoi.
Alors ça, c'était pensé par Gaudin aussi, parce que lui, il était contre l'individualisme.
Il était contre l'habitation pavillonnaire. Il disait, à partir du moment où vous avez un petit pavillon, c'est l'égoïsme qui s'installe. Dis-moi ce que je vais faire, je vais construire un palais social, un familistère, pour que les gens vivent ensemble, se côtoient, se parlent, vivent ensemble. C'était le but recherché par Monsieur Gaudin. C'était ancré, on vivait au familistère. On y vivait, et on y vivait bien. Mais ça allait jusqu'à la mort, il y avait un service entièrement. Chaque ouvrier, chaque membre du personnel qui décédait avait le droit gratuitement au service d'enterrement. Son cercueil gratuit. Moi, je les ai vus fabriquer, puisque j'étais à la menuiserie, j'ai vu fabriquer les cercueils.
Vous savez que votre arrière-grand-père, votre grand-père et votre père sont enterrés dans des cercueils...
Du Familistère ? Mais c'était gratuit, ça, c'était gratuit. De la naissance jusqu'à la mort, il avait tout prévu. Même le médecin qui était gratuit, les médicaments gratuits. Je sais pas, c'était vraiment le précurseur, c'était le bien-être de l'ouvrier, parce qu'il avait été ouvrier lui-même, il avait fait son tour de France, il s'est aperçu qu'il y avait une misère dans le monde ouvrier.
Alors, misère dans le monde ouvrier, contre laquelle misère Jean-Baptiste Gaudin a passé sa vie et qui est toute son œuvre. Évidemment, les critiques dont Gaudin a pu faire l'objet et fait toujours l'objet aujourd'hui, bien évidemment, on les voit venir. Paternalisme, autoritarisme, collectivisme, ordre moral, contrôle de tous par tous, parce que dans ce palais social, eh ben, on habite les uns sur les autres, donc on se surveille, etc. Ça va pas sans un certain nombre de critiques. D'ailleurs, Émile Zola n'était pas d'une très grande, lui, qui s'était intéressé à l'expérience de Gaudin, n'était pas d'une très grande tendresse avec lui. Il était très critique. Il reconnaissait des côtés positifs à son entreprise, mais il était très critique. Mais bien évidemment, il y a pas d'expérience sociale, il y a pas d'innovation si on veut un autre monde, bah, qui soit sans défaut aucun. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, cette page est tournée. Le Gaudin est mort en 1888, et je le disais tout à l'heure, cette entreprise a fonctionné jusqu'en 1968, reprise depuis par un entrepreneur qui n'a gardé que la marque, mais avec une gestion bien actuelle, bien contemporaine et bien libérale.
On va entrer dans la salle des fêtes.
Ouais.
Bonjour. Donc là, vous posez les premières tables dans la salle qui est complètement vide pour l'instant.
Voilà, oui. Bon, faut attendre les femmes à le ménage, je viens de nettoyer. Là, il y a eu le refroid de... C'est quoi déjà? Attends, Resto du Cœur. Alors, c'est pour ça qu'il y a encore des papiers dans la salle, des cartons. Il faut attendre que tout soit nettoyé pour pouvoir positionner le tout.
Alors là, on a réussi à faire, parce qu'il y a les commerçants qui nous aident. Sinon, on n'aurait pas pu le faire cette année. L'année dernière, on avait demandé au PDG s'il pouvait nous donner un coup de main. L'année dernière, il l'a fait. Et là, cette année, on lui a demandé, il a dit non. 1 500 euros, là, il n'a pas voulu les mettre cette année.
Il n'a pas voulu donner 1 500 euros pour la fête des enfants?
Alors, du coup, on a fait des quêtes, une cotisation, il y a des commerçants, tous les bénévoles. Et là, ça se fait, c'est grâce à eux. Sinon, on n'aurait pas pu le faire.
Comment il s'appelle, le PDG?
Philippe, Marc Philippe.
Il est pauvre pour...
Il ne faut pas savoir ce que c'est d'être pauvre.
On a vu des échos, quoi. Il est quand même...
C'est 302e sur 500 des plus grosses fortunes de France.
Ouais. Ah, il est dans les plus riches de France, alors.
Ouais. 302e sur 500 classés. On a une belle fortune. Hein. Faut penser à ces ouvriers, c'est quand même un honneur. Hein. Quand on a comme véhicule de fonction une Porsche 911, et sa sœur a une Porsche comme véhicule aussi.
Ah, et donc quand ils viennent à l'usine, ils viennent en Porsche?
Ouais, c'est arrivé qu'on voit les deux Porsches dans la cour. Moi, j'ai un crédit sur 5 ans. J'ai un véhicule qui avait 153 000 km. C'est un 806 diesel, un véhicule familial, quoi. Mais c'est un gros sacrifice, parce que c'est un gros investissement. Hein. C'est une charge supplémentaire, en plus du loyer qu'on verse pour la maison, quoi, pour créer la maison.
Et pourquoi vous avez choisi ça plutôt qu'une Clio ou une Saxo?
Parce qu'une Clio à 5 dedans, c'est pas possible. Quand vous avez un bébé, quand vous avez le siège auto, voire le lit auto quand il est bébé, vous avez le landau derrière, bah, dans une Clio, c'est pas possible.
Vous prenez des vacances avec les enfants?
Non. On n'a jamais pris de vacances. On n'a pas un budget qui puisse nous permettre d'aller en vacances. J'espère pouvoir les emmener, même si c'est 3 jours, 4 jours. Ça vient de les emmener une semaine en bordure de mer, ils seraient heureux, même sur le plage junior, c'est pas un problème. Ça les changerait de leur train-train habituel, quoi. Les seules vacances qu'on s'est attribuées, c'est un samedi ou un dimanche à la mer. C'est-à-dire 400 km sur la journée et puis quelques heures à la mer, quoi.
Pour dire de pas payer d'hôtel le soir ou de camping ou...
Voilà, ouais. On arrive à s'en sortir, pour pas dire le contraire. Mais au sacrifice de tout, au sacrifice des loisirs, au sacrifice... Moi, mes enfants sont allés au cinéma la première fois parce que les pompiers ont offert des places de cinéma aux enfants. C'est la première fois de leur vie. Bon, il faut dire aussi que c'est pas dans nos mœurs. On n'est pas des gens allés au cinéma parce qu'on n'a pas les moyens non plus. Parce qu'une place de cinéma, sur une soirée, c'est le carburant pour y aller. À la limite, c'est un peu bête d'emmener les enfants sans les manger à la cafétéria ou un truc comme ça avant. Dire leur faire une soirée, leur faire un bon plaisir, on le fait pas. Il arrive de temps en temps qu'on aille à la cafétéria. Mais quand on voit la cafétéria, c'est parce qu'on a des chèques vacances. Et pas les chevaux qu'on leur dit, bah, on va leur faire plaisir, on va leur payer la cafétéria. C'est une des rares fois où ils vont à la cafétéria. Après, ben, quand moi j'habite à Naples, il y a la forêt de Menvray.
Habitez où ?
J'habite à Naples, c'est entre Guise et Étreux. Donc, il y a la forêt de Menvray pas très loin de chez moi. Ben, de temps en temps, on les emmène faire un petit tour à la forêt de Menvray. Il y a un parcours de santé. Ça les change. Ça leur change la cour, quoi. Ça leur change la maison. Et puis sinon, en général, ben, c'est chez les grands-parents, quoi. La plus grande sortie, c'est les grands-parents. Bon, je vais vous laisser tenir, je vais donner un coup à un collègue.
Je vais travailler un petit peu.
Rien d'étonnant, plus rien de choquant à entendre des salariés parler de cette façon. Salariés d'une entreprise qui se porte bien, entre autres grâce à eux, malgré tout, quand même. Une entreprise bénéficiaire qui fait 43 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 4,3%, c'est-à-dire 10% de rentabilité. Donc tout va bien, 341 salariés, 65 intérimaires, voilà. Et ben malgré ça, le patron, le propriétaire de l'entreprise, Marc Philippe de Béthune, dont la fortune personnelle est classée, il est donné, j'ai vu ce qu'on nous a dit tout à l'heure, 300, classement 300 dans les fortunes françaises, et ben, on estime qu'il n'a pas du tout à augmenter ses salariés, ni même à payer l'arbre de Noël du salarié, voilà. Ça choque plus personne. Eh bien, ça a choqué quand même beaucoup de monde, au moins au 19e siècle, et ça choquait Gaudin, entre autres, parce qu'il n'était pas le seul du tout à se préoccuper de ces relations entre dans l'entreprise, entre le social, l'économique, le travail et tout ça. Ben, ça s'appelle de la politique. C'est un très très gros mot, mais ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Triste constat d'un grand bond, effectivement, en arrière.
On savait pourquoi on travaillait.
Et pourquoi vous travaillez alors ?
Ben, on travaillait pour avoir le plus de bénéfices possible, pour que les répartitions soient de plus en plus importantes.
Parce que le bénéfice, ça n'allait pas dans la poche du patron, alors ?
Ah non. Monsieur Gaudin va créer son association Capital Travail. Il va créer des titres d'épargne et chaque membre du personnel avait un titre d'épargne selon ce qu'il était sociétaire ou associé ou même participant. Donc au moment de en chaque fin d'année, le bilan était fait. Donc, on prélevait sur les bénéfices pour alimenter la caisse d'assurance maladie, pour alimenter la caisse des écoles, et ce qui restait, c'était réparti parmi le personnel.
Allez-y, allez-y. Commencez.
Alors ça, c'est Monsieur Pat, hein, qu'on vient de retrouver. Là, vraiment, on mesure le temps passé, le fossé, je ne sais pas très bien comment dire. En tout cas, les salariés préparent quand même ce sapin, ce sapin de Noël.
Mais ça, dans l'entreprise, on vous dit pas des choses comme ça, si on pourrait très bien partir dans un autre pays ou...
Ils ont marqué noir sur blanc. La grève était presque terminée. Qu'ils avaient toujours privilégié le travail en France, mais que, en définitive, les coûts seraient moins forts dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est, ou éventuellement en Chine.
C'était un message pour vous aussi, en disant, si vous recommencez...
Ben voilà, tout à fait. C'est pas écrit en clair, mais on a su le décoder.
Donc là, à l'intérieur, c'est quoi ?
Attendez, je vais vous dire ça. Bah, apparemment, c'est des pouces. Il y a un pouce-pouce. Ça, c'est un petit piano éducatif. Caisse enregistreuse. Et puis Franklin sur sa bicyclette.
Franklin, c'est qui ?
Ah, c'est lui, regardez, c'est une petite tortue. C'est le dessin animé que les enfants voient le matin à 8h ou 7h30, un truc comme ça. Vous connaissez pas ?
Non. Vous voyez pas l'enfant.
Ouais. J'ai une petite qui a 18 mois, un petit garçon qui a 4 ans et puis une fille qui a 7 ans.
Et ils croient encore tous au Père Noël ?
Oui. On essaie de tenir le secret le plus longtemps possible. Ils vont venir tous les 3 soirs, bon bah ils vont être super heureux. Quoi.
Les cadeaux de Noël, ils sont déjà prévus pour...
Ouais, les cadeaux de Noël sont déjà prévus. Ouais.
Et c'est quoi alors ?
Si je le dis, on va me dire que je me plains, je fais grève et puis... pour les Les deux plus grands, ils sont chacun un VTT. Puis la petite a une bricole, puis il aura un truc derrière, quoi. Mais les deux autres, 4 ans et 7 ans, si on marque pas le coup tout de suite, c'est pas pareil que la petite. Et puis, ben, quand on a fait un peu d'économie, qu'on a gardé en cas de pépin, bon, ben, on tire là-dessus. Mais c'est jamais de l'argent qu'on a de côté pour une longue durée. Alors, on va s'en servir pour le chauffage, ou alors on va s'en servir pour les cadeaux de Noël. Jamais on a de l'argent pour dire, ben, on s'en servira dans 10 ans ou dans 15 ans. Ou alors pour payer le permis aux enfants quand ils seront en âge de passer le permis. D'ailleurs, on se pose même la question, je me demande si mes enfants ont la possibilité de faire des études, comment on va faire pour leur payer?
Ouais, parce qu'il faut qu'ils t'aiguisent, il faut aller habiter ailleurs, il y a le logement à payer,
ouais,
il y a tout ça.
Voilà, ouais. Ouais. C'est déjà une inquiétude, bah ouais. Et puis bon, bah, on peut pas dire que, en contrepartie, on aurait fini de payer la maison, bon, ce qu'on mettait pour la maison. On peut le mettre pour les études. C'est pas le cas quand ils vont attaquer les études, moi j'aurais toujours pas fini de payer ma maison.
T'as combien de salaire, toi?
Moi, je fais 1076 euros. Puis déjà, en maison, je suis à 340 euros à peu près. En voiture, je suis aux alentours de 190 euros.
T'as déjà plus du moins la moitié de ton salaire qui est bouffé par de
panique. Ouais. Bon, après, quand on prend l'EDF, quand on prend le chauffage, parce que je me chauffe au fioul, ça fait quand même les assurances automobiles, maison, les couvertures pour les enfants. Tout ça, ça se chiffre.
Hein. Et ta femme, elle travaille?
Non, elle a un congé maternité, parental. Elle travaille au camping de Guise. Hein. Elle a fait un CES d'environ un an, et puis derrière, ils lui ont fait un emploi jeune de 5 ans. Bon, c'est pareil, bon, un emploi jeune, c'est pas quelque chose de stable, quoi. Après 5 ans, en général, il n'y a pas d'embauche derrière. On s'en sort, on s'en sort toujours à 5 heures.
Véritable fanfare du palais social de Guise, un reportage de François Ruffin. Vous pouvez visiter le Familistère de Guise. Il suffit de contacter le syndicat mixte au numéro suivant 03 23 05 85 90 03 23 05 85 90 ou aller sur le site www.familistère.com. Et c'est une très belle balade, une visite intéressante, d'autant plus vous avez compris qu'il y a des descendants, des familistériens qui seront tout à fait ravis, je suis sûr, de vous faire visiter le palais social. Merci à tous, merci à monsieur et madame Pat, Geneviève Douet, Guy Delabre, Vincent, Xavier, Marielle, Jackie, Pascal, Jean-Pierre et tous les salariés de chez Godin. Merci à France Bleu Picardie. À lire, si vous arrivez à le dégoter, le dictionnaire des utopies de Michel Rio-Sarcey. Et puis ce bouquin sur l'histoire de Godin et le familistère de Guise de Guy Delabre et Jean-Marie Gauthier. Je ne sais pas s'il a été réédité, mais en tous les cas, il était très bien fait, très bien documenté. Technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis à partir de lundi prochain, nous partirons pour Mayotte et pour les Comores, l'archipel de la Lune, et on ira de découverte en découverte dans ce petit confetti de l'Empire. Il est 18h sur France Inter, on se retrouve demain à 17h, toujours dans le Palais Social. Je vous laisse pour les infos avec Bruno Duvic. Salut.